Bonsoir, territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Cela fait 30 jours, c'est 12 juillet, depuis que la cité frontalière de Bunagana est entre les mains des rebelles du M23. Cette cité est située à 90 km au nord de Goma, une cité d'importance capitale qui constitue une des principales recettes douanières de la RDC, en plus de sa position stratégique par rapport au Rwanda et à l'Ouganda. Pendant ce temps, la première réunion de la commission mixte RDC-Rwanda, prévue ce mardi 12 juillet 2022 à Luanda, est reportée à la dernière semaine du mois de juillet, selon la présidence de la République, à la suite du décès de l'ancien chef d'État, Eduardo Dos Santos. Entre-temps, dans une récente communication, le M23 continue à revendiquer des pourparlers avec le gouvernement congolais afin de mettre fin à la crise sécuritaire au Nord Kivu. Comment analyser cette situation? Quels sont les accords signés entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23? Nous en parlons ce soir avec Julien Paluku. Il est ministre de l'Industrie. Il a été gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Monsieur Julien Paluku, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi, particulièrement à ceux du Nord Kivu, de l'Ituri et de partout en RDC qui nous suivent en ce moment.
Bob Kiabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kiabamba, bonsoir.
Oui, bonsoir madame et bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi ainsi que à tous ceux qui nous écoutent, mais aussi à nos co-débatteurs du jour, Son Excellence Monsieur le Ministre Julien Paluku.
Rigan Miviri, chercheur au baromètre sécuritaire du Kivu, projet commun du groupe d'études sur le Congo, Jacques Ansigle et Human Rights Watch. Rigan Miviri, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes très nombreux, auditeurs de Radio Okapi, à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jean Bella de Kisangani, dans la province de la Tchopo. On ne négocie pas avec les rebelles. Actuellement, la seule vraie option et la plus efficace serait de faire la guerre au M23 afin d'éradiquer définitivement ce mouvement et aussi donner un signal fort à d'autres groupes armés pour qu'ils sachent que désormais, il n'y a pas de place au sein des FRDC pour les groupes armés. À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, cela fait 30 jours, c'est 12 juillet, depuis que la cité frontalière de Bunagana est entre les mains des rebelles du M23. Nous sommes à environ 90 km au nord de Goma, une cité d'importance capitale qui relie la RDC à l'océan Indien à travers l'Ouganda. Bunagana constitue également une des principales recettes douanières de la RDC, en plus de sa position stratégique par rapport au Rwanda et à l'Ouganda. Un mois après son occupation, quelle est la situation sur place et que pense la population locale? Sifa Maguru pour le reportage.
Depuis l'occupation de la cité de Bunagana par le M23, l'entité est complètement paralysée. Aucune activité socio-économique n'a repris car la population est absente. La douane de Bunagana génère entre 4 à 5 millions de dollars américains chaque mois au trésor public selon des sources douanières. Tous les bâtiments publics, y compris les bureaux administratifs de la DGDA, de la DGM, de l'OCC et ceux du groupement des Jomba et autres, ont été cassés et leur matériel pillé par des rebelles. Nos sources dans la région affirment que depuis quelques jours, ces rebelles font du porte-à-porte, cassent et pillent les maisons des habitants. Selon les témoignages, seul le mouvement des véhicules militaires des Ougandais transportant des nourritures et effets militaires sont visibles et font des navettes entre la frontière. Un notable que nous avons joint demande au gouvernement plus d'efforts pour récupérer cette partie des Rutshuru, car les conséquences ne font que s'alourdir, notamment un manque à gagner considérable, tant pour l'État que pour la population. Goma Sifamaguru, Radio Okapi.
Merci, Sifa Maguru, pour ce reportage. Julien Paluku, je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie. Vous avez été gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Aujourd'hui, 12 juillet, un mois que la cité de Bunagana est entre les mains du M23. Bunagana, c'est une cité importante, comme on l'a dit ici, qui constitue une des principales recettes douanières de la RDC, en plus de sa position stratégique par rapport au Rwanda et à l'Ouganda. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement n'arrive pas à récupérer cette cité?
Oui, merci madame. Ce qui est important à souligner, c'est que Bunagana reste une partie de la République démocratique du Congo. Et Bunagana reste une cité qui, malgré le fait qu'elle soit aujourd'hui sous la coupe de ce qui s'appelle rebelle, eh bien la RDC reste entière, la RDC reste ce qu'elle est. Et donc, nous pouvons nous réjouir du fait qu'il n'y a pas un seul centimètre qui soit déclaré n'appartenir plus à la République démocratique du Congo. Donc je crois qu'il faudrait que la population s'apaise. J'avais dit dans une des émissions ici qu'il n'y aura jamais un seul centimètre qui sera cédé à qui que ce soit. Et donc Bunagana reste une partie de la République démocratique du Congo. C'est ce que je peux dire en ce moment.
Mais le gouvernement n'a pas de contrôle sur cette cité importante, Monsieur Julien Paluku.
Le gouvernement, on ne peut pas à ce stade dire qu'il n'a pas le contrôle. Ce n'est pas ici les lieux de pouvoir relever toutes les stratégies qui sont en train d'être mises en place par notre gouvernement. La guerre, on sait quand est-ce qu'elle commence, mais on ne peut pas dire quand est-ce qu'elle prend fin. Vous êtes en train de suivre tout ce qui se passe dans les pourparlers à gauche, à droite. Je crois que l'émission est là pour que nous puissions débattre de toutes ces questions.
Justement, en parlant de pourparlers, la réunion qui devait se tenir aujourd'hui à Luanda entre la commission mixte RDC et Rwanda a été reportée à la dernière semaine du mois de juillet. Et lors de la tripartite, la dernière réunion qui s'est tenue à Luanda, une feuille de route avait été adoptée. Pensez-vous, M. Paluku, que cette feuille de route pourrait être un début de solution à ce problème du M23?
Bon, moi, je pense que sur le plan pédagogique, l'Afrique des Grands Lacs, c'est une Afrique des accords de paix. Vous vous rappellerez que, si je peux rappeler quelques accords, nous avons eu l'accord d'Arusha, l'accord de Lusaka, l'accord de Gourdoto, l'accord CADE, l'accord avec les M23. D'abord, à l'époque où il s'appelait CNDP, c'était en 2009, et c'est cet accord du 23 mars qui est réclamé pour que ce mouvement se s'appelle M23, M comme mars, comme je l'avais dit, et 23 comme la date où on avait signé ces accords du CNDP. Et lorsqu'il a été défait le 6 novembre, disons le 5 novembre 2013, on est allé encore le ressusciter par un autre accord qui avait été signé à Nairobi en décembre 2014. En fait, un accord que moi j'ai qualifié d'un accord qui ressuscitait le M23 alors qu'il était enterré en novembre 2013. Eh bien, tout cela, à mon avis, les accords de paix, en conclusion, sont les faits de la faiblesse militaire des États. Les États qui sont militairement forts ne recourent pas aux accords de paix. Et c'est cela l'interpellation que j'ai toujours faite depuis que j'étais gouverneur pour dire...
Est-ce le cas de la RDC?
La RDC doit construire son système de défense et le président de la République, vous avez suivi dans son message du 30 juin, lorsqu'il a fait un appel à la mobilisation générale pour demander à la jeunesse à se faire recruter dans l'armée, c'est parce qu'il a identifié effectivement le problème de notre pays pour dire « Nous devons investir dans la construction de notre système de défense parce que les accords de paix répétitifs traduisent la faiblesse de notre système de défense et de sécurité, étant donné que nous les avons signés depuis la nuit des temps, mais ils ne nous ont jamais amenés effectivement à résoudre les problèmes. »
Est-ce le cas pour la RDC, M. Paluku? On peut parler des faiblesses militaires aujourd'hui de la RDC, raison pour laquelle le gouvernement recourt aux accords.
Je suis en train de faire une analyse à chacun de pouvoir tirer une conclusion. Vous vous rappellerez par exemple que la rencontre que le président de la République a eue le 5 juillet à Luanda avec le président Kagame, pour moi, c'est une rencontre révélatrice parce qu'au moins on est arrivé à mettre en face les vrais acteurs parce que tous les accords qui ont été signés mettaient en place les épouvantails, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas les auteurs et les acteurs réels. Donc, la force de la diplomatie congolaise s'est révélée le 5 juillet lorsque le président Lorenzo a mis en face le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est le chef de l'armée qui se bat à Rutshuru, à Bounagana notamment, et le président Kagame qui se bat aussi à Rutshuru. Et c'est ça la force de la diplomatie congolaise, lorsque les acteurs en conflit se sont retrouvés au lieu de nous ramener effectivement les épouvantails qui ne sont pas les acteurs. Et donc je considère qu'à partir du moment où les acteurs se rencontrent au sommet, on est en train d'être au début de la solution au problème dans la région des Grands Lacs.
Monsieur Julien Paluku, le président Kagame n'a jamais reconnu être derrière ou soutenir les M23 à Bounagana, et même après la réunion du 5 juillet, il y a eu un communiqué de ce mouvement rebelle qui s'est dit ne pas être concerné par ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu comme signature ou entente au niveau de Luanda.
Oui, mais nous ne pouvons pas attendre un discours différent de celui-là, mais au moins les preuves sur le terrain sont claires. Imaginez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, que vous êtes à Tchanzu. À Tchanzu, c'est à 0 mètre du Rwanda, et que des militaires ont une puissance de feu reconnue par la MONUSCO qui est supérieure à celle d'une armée comme celle de la RDC à 0 mètre du Rwanda. Comment on peut s'imaginer que cette puissance de feu tombe du ciel alors que la frontière est à 0 mètre? Comment on peut avoir des effets militaires avec des écrits RDF de l'armée rwandaise? Comment on peut avoir des armes avec des indications d'un pays fournisseur qui a bien indiqué que c'est lui qui a fourni ses armes et qu'un pays continue à nier que c'est pas lui de fournir? Donc moi je pense qu'il y a des langages qu'on donne pour la consommation diplomatique et des langages que nous comprenons en tant qu'acteurs parce que nous manipulons cet nombre de données. Et il y a des choses qu'on ne sait pas livrer à l'opinion pour ne pas vexer cet nombre de paramètres sur le plan de l'opinion publique. Mais je crois que les experts qui manipulent les données que nous voyons sur le terrain savent exactement que ce qui se dit dans les médias et même ce qu'on fait, on vous fait consommer dans les communiqué à l'issue des réunions. Nous en avons connu des réunions, des sommets des chefs d'État ou des réunions à l'international. On sait ce qu'on fait consommer à l'opinion et ce qui s'est dit en aparté. Donc je voudrais dire à l'opinion que l'agression est réelle, elle est totale et même les Nations Unies ont reconnu par la communication de la chef de la MONUSCO que la puissance de feu des éléments du M23 est bien supérieure à une puissance de feu des forces rebelles parce que les outils utilisés ne sont pas les outils d'une force rebelle mais c'est bien des outils d'une armée régulière comme une armée d'un pays. Donc là, le président rwandais, c'est tout à fait normal qu'il cherche à nuancer cela parce qu'il sait qu'en reconnaissant officiellement, il va se faire condamner par toute la communauté internationale.
Monsieur Paluku, le M23 continue à revendiquer des pourparlers directs avec le gouvernement congolais afin de mettre fin à la crise sécuritaire au Nord Kivu. Vous êtes membre du gouvernement congolais. Je rappelle aussi que vous avez été gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Y a-t-il des accords entre les gouvernements et le M23?
Le Conseil supérieur de la défense a bien sorti une décision claire et nette qui a été endossée par le gouvernement en déclarant clairement que le M23 est un mouvement terroriste et que tout le monde doit tirer la leçon et la conséquence. Quand le Conseil supérieur de la défense, présidé par le président de la République, déclare qu'une force est une force négative, est un mouvement terroriste, eh bien, on doit tirer les conséquences. Et c'est la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères est allé déposer les instruments de ratification de l'adhésion de notre pays à l'East African Community pour que tous les textes qui nous lient à cette organisation régionale nous soient appliqués, étant donné qu'avant la ratification, eh bien, les textes liés, par exemple, au système de défense qui est appliqué à tous les États de la région de l'East African Community ne nous étaient pas appliqués. Maintenant, les 11 juillet, nous sommes allés déposer les instruments de ratification de l'adhésion de la RDC à l'East African Community et donc à partir d'aujourd'hui, eh bien, ces textes nous sont appliqués et donc les pays qui nous agressent vont subir eh bien, l'application de tous ces textes-là.
Mais on se souviendra, monsieur le gouverneur, ça sera peut-être la dernière question avant de donner la parole au professeur Bob Kibamba. On se souviendra qu'en novembre 2019, une lettre avait été adressée à l'auditeur général des forces armées de la RDC demandant le retrait des mandats déclarée contre les ex-combattants du mouvement M23. C'est une lettre qui avait été signée par le coordonnateur du mécanisme conjoint, Ibalanki. Cette lettre, elle devient quoi, cette correspondance?
Oui, les accords évoluent avec l'évolution aussi des circonstances et de l'environnement. Aujourd'hui que le Conseil supérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, a sorti une nouvelle décision qui est postérieure à cette lettre de M. Ibalanki qui gère le mécanisme de l'accord de l'accord cadre d'Addis Abeba, eh bien, c'est plutôt la décision du Conseil supérieur de la défense qui aujourd'hui est en vigueur. Nous devons nous atteler à cette décision-là et la conséquence à tirer, c'est que le M23 est aujourd'hui un mouvement terroriste tel que qualifié.
Bob Kebamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur, comment vous analysez la situation aujourd'hui à Bourlagana, un mois après, cette cité est toujours entre les mains des rebelles du M23. Est-ce que on peut dire qu'il y a comme une sorte désintéressement de l'État de pouvoir récupérer cette cité, ou bien c'est une stratégie mise en place par l'État congolais pour voir comment anéantir ces rebelles du M23 qui occupent Bourlagana aujourd'hui?
Merci pour la question, mais il faut se rendre un petit peu à l'évidence. Hein. Donc vous devez regarder la perspective historique des différents mouvements qui ont eu lieu depuis quand même plusieurs années, même plusieurs décennies. Vous allez vous rendre compte que c'est toujours la même méthodologie qui est toujours appliquée. On est en 2004 avec Moutebousi, 2006 avec Kunda, première fois, 2008-2009, Kunda deuxième fois, 2012-2013, c'est le M23, et encore aujourd'hui, le M23. Quand vous regardez, vous essayez de faire une analyse de ces différents groupes, de ces différents mouvements par rapport à ce qui y est revendiqué, et surtout par rapport à la réalité du terrain, on se rend bien compte qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe dans cette région, et ce qui se passe dans cette région est alimenté par le niveau régional, et généralement on a toujours oublié un élément supplémentaire, parce qu'on n'arrête pas de pointer que le Rwanda, mais ici dans le cas présent, il faut aussi pointer le cas de l'Ouganda. Et vous vous souvenez, même votre reportage tout à l'heure a bien mentionné qu'il y a des mouvements de troupes ougandaises vers Bourlagana avec des armes et des munitions, ainsi que de la nourriture pour les militaires. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, il semble bien évident que l'armée congolaise n'est pas en mesure de pouvoir arriver à reprendre cette cité, pour la bonne et simple raison qu'il y a, d'une part, le soutien du Rwanda qui est évident, et d'autre part, il y a aussi le soutien de l'Ouganda. La question à se poser, à quoi joue l'Ouganda, puisque d'une part, l'Ouganda est dans le Grand Nord avec l'armée congolaise pour les traquer les ADF, et dans le Petit Nord, il semblerait, d'après ce que même les différents rapports ainsi que les observations que l'on a de la société civile dans la région de Bourlagana, semble indiquer que l'Ouganda est aussi impliqué dans ce conflit. Et donc, clairement, il y a cette dimension qui fait en sorte que l'armée congolaise n'arrive pas à pouvoir reprendre cette cité et reprendre même les territoires qui sont conquis par le M23 aujourd'hui.
Comme l'armée congolaise n'arrive pas à reprendre cette cité de Bourlagana, faut-il attendre la prochaine réunion de la commission mixte pour espérer enfin voir ces rebelles du M23 quitter la cité de Bourlagana, même si ces derniers estiment qu'ils ne sont pas concernés par les travaux de Luanda, ils exigent de pourparlers direct avec le gouvernement congolais?
Donc, certainement que dans le cas actuel des choses, il va de soi que le M23, puisque c'est le M23 qui occupe les terrains, ça veut dire qui est en position de force, en termes de rapport de force, en termes de négociation, et que quand on est en position de force, l'option que l'on a généralement, c'est de pouvoir imposer son calendrier. Et ici, certainement que, comme il y a déjà cette dynamique qui a commencé au niveau de Luanda, il ne serait pas étonnant que dans les jours qui viennent, que le M23, voulant accentuer la pression sur le gouvernement congolais, réattaque quelques positions, va réattaquer quelques villages, va réoccuper encore quelques villages pour chaque fois montrer sa force et pouvoir imposer son calendrier au gouvernement congolais. Gouvernement congolais, non pas par rapport à la procédure qui est en train de se passer à Luanda, mais pression sur le gouvernement congolais par rapport à ce qu'eux-mêmes continuent de revendiquer, c'est-à-dire des négociations directes entre eux, M23, ainsi que le gouvernement. Et donc ça, cette situation, malheureusement, elle n'est pas en faveur de la RDC, elle est plus en faveur donc du M23, et plus le temps passe, plus l'état de fait se consolide. Et lorsque l'état des faits se consolide, on arrive à avoir une situation qui va se dérégler. Et l'opinion publique, qui, dans un premier temps, est toujours contre cette situation de guerre, pourrait se lasser. Et en se lassant, cela pourrait faciliter le M23 à continuer à occuper des terrains au fur et à mesure et de manière, entre guillemets, où l'opinion publique se lasse par rapport à cette situation.
Il y a eu des accords signés entre le gouvernement et les M23. Aujourd'hui, est-ce que, au nom de la paix, je veux dire, le gouvernement congolais devrait respecter les accords qu'il a signés avec le M23 ou bien il faudrait faire fi de ces accords antérieurs, comme l'a dit le gouverneur, le ministre Julien Paluku, et utiliser la force pour anéantir ces rebelles.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à revenir aux accords de Nairobi qui a été signé donc à Nairobi, en Ouganda plutôt. Donc, ce sont des accords qui portent sur plusieurs points, notamment la question de l'amnistie, cantonnement, parti politique, etc. Toute une série de points qui sont concernés par cet accord. Revenir sur cet accord-là, cela voudrait dire que le M23 a gagné. Or, si le M23 sort gagnant dans cette dynamique, c'est le pouvoir de Kinshasa qui va s'affaiblir. Parce que ça va vouloir dire au niveau de l'opinion publique que le Grand Congo s'est plié face au M23 avec ses soutiens qui sont le Rwanda et l'Ouganda. Et c'est une situation très délicate, d'autant plus que nous entrons, comme vous le savez, dans une période qui va amener peut-être la RDC dans aux élections l'année prochaine. Et donc, imaginez-vous dans un système où le M23 sort gagnant des négociations puisque le gouvernement congolais accepte de pouvoir revenir sur ces accords. D'autant plus que le gouvernement lui-même, comme l'a rappelé tout à l'heure, a décidé que le M23 était devenu un groupe terroriste. Et donc on est quelque part entre des positions que l'on prend pour pouvoir consolider son espace politique. Mais ces positions que l'on prend sont par contradiction avec la dynamique qui est en train de se passer sur le terrain. Et donc, quand vous lisez même les différents communiqués, quand vous lisez les différents communiqués qu'il y a au niveau des régions, de l'organisation régionale, continentale, tous, ils rappellent chaque fois, même au niveau du Conseil de sécurité, ils appellent directement aux négociations. Négociations avec le M23. Alors, si le gouvernement se plie à cette exigence, c'est le M23 qui gagne. Et si le M23 gagne, c'est le pouvoir congolais qui perd. Et le pouvoir congolais qui perd, ce serait vraiment délicat dans le contexte actuel que au niveau des Kinshasa qu'on puisse accepter cette situation. Et c'est ce qui explique aussi, je pense aussi, cette espèce de léthargie et cette espèce de réorganisation au niveau militaire pour essayer de faire quelque chose. D'où les hésitations et d'où, après guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, on a l'impression qu'on accepte le fait acquis que Bounagana est entre les mains du M23.
Il y a cet auditeur qui nous a écrit depuis Kisangani qui pense que la seule option et la plus efficace serait de faire la guerre au M23 afin d'éradiquer définitivement ce mouvement, mais aussi donner un signal fort à d'autres groupes armés pour qu'ils sachent que désormais, il n'y aura plus de place au sein de la FARDC pour les rebelles.
Mais je ne pense pas. Vous savez que lorsque l'on regarde toute la dynamique jamais cette dynamique de guerre n'a apporté des solutions durables. La preuve, on est encore en train de parler du M23 alors qu'il y a 10 ans, on en parlait pratiquement, il y a 8 ans, on en parlait pratiquement plus. Et donc, la dynamique conflictuelle en disant oui, on va aller au niveau militaire, il faut avoir aussi les moyens des actions militaires. Est-ce que la question fondamentale, le Congo a-t-il les moyens militaires suffisants pour arriver à vaincre le M23 définitivement, dans l'état actuel des choses, on peut dire non. Mais encore, je répète encore une fois, quand on dit M23, il y a quand même deux pays qui sont derrière le M23, et le Rwanda et l'Ouganda qui sont derrière le M23. Les moyens militaires de la RDC sont suffisants pour faire face à un tel mouvement qui a des liens avec des pays voisins qui sont militairement catégorisés comme plus forts que le Congo, je ne le pense pas. Or, aller vers les négociations, Kinshasa ne peut pas accepter d'aller vers les négociations puisque ça serait une défaite pour Kinshasa. Et donc, la solution, de mon point de vue, passe d'abord par le fait d'éradiquer les causes de ce conflit. On a toujours les mêmes problèmes qui sont à la base de ces différents conflits. C'est toujours la même question communautaire. C'est toujours, ça commence par des questions communautaires, et puis ces questions communautaires qui ont des relais au niveau régional et sans embrase, et nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Tant que nous n'aurons pas réussi à résoudre cette question-là, nous allons continuer tous les 10 ans ou même tous les 5 ans à réavoir toujours les mêmes problèmes, et tant que le Congo ne sera pas un État stable avec une armée véritablement républicaine.
Rigen Miviri, chercheur au baromètre sécuritaire du Kivu, c'est un projet commun du groupe d'études sur le Congo, GEC, en sigle des Human Rights Watch. Quelle lecture vous faites de cette situation dans le Rutshuru, un mois que cette cité est toujours entre les mains des rebelles du M23? Quel est votre lecture?
Oui, merci pour la parole. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait, il y a une certaine cristallisation du conflit. Donc, les différents acteurs tiennent à ce qu'ils puissent maintenir leur position. Et on comprend, par exemple, que les M23 en choisissant la stratégie d'avoir de plus en plus de territoires qu'ils gèrent. Ils veulent utiliser ça, en fait, comme un point qu'ils vont utiliser pour gagner certaines concessions, notamment l'application des accords passés. Et je pense que c'est là où il y a le plus grand problème, en fait, parce que même si on appelait aux négociations, aux pourparlers, il faudrait se rappeler qu'il y a déjà eu des pourparlers, il y a déjà eu des accords, mais pourquoi ces accords n'ont pas été exécutés? Tout simplement parce qu'en fait, ces accords-là, c'est une question tellement sensible pour l'opinion congolaise et qu'il est difficile pour n'importe quel gouvernement d'exécuter certains points de ces accords. C'est notamment,
mais,
par exemple...
Mais pourquoi avoir accepté de signer ces accords avec ce mouvement rebelle? C'est une question que beaucoup de gens se posent.
Oui, c'est là la question, peut-être c'est au gouvernement de répondre pourquoi ils ont gagné alors qu'ils ne pourront pas exécuter ça. Mais je pense aussi qu'il y a aussi une autre donne, c'est qu'il y a eu quand même évolution dans la façon de comprendre le conflit à l'est du Congo. De plus en plus, les gens comprennent en fait qu'on ne peut pas résoudre le conflit au nord Kivu et au sud Kivu et à Ituri en donnant la prime à l'impunité. Ça signifie en donnant, par exemple, le militaire à les réintégrant dans l'armée, à reconnaissant les grades, et peut-être aussi à des postes politiques. Cette façon a été utilisée pendant très longtemps, et ça fait qu'en fait, on a perpétué la stratégie, et les rebelles se sont encore réorganisés pour réclamer encore plus. Et donc, depuis que le gouvernement a décidé d'avoir un programme de désarmement, de mobilisation, de réinsertion communautaire et stabilisation, en fait, la décision est celle de ne plus réintégrer les gens dans l'arme. Et donc, cela est déjà en contradiction avec les accords passés. Et donc, dans la configuration actuelle, il est difficile et presque impossible pour le gouvernement congolais de satisfaire les revendications du M23. Et c'est là le grand problème. Et donc, si le gouvernement ne va pas satisfaire les revendications du M23, qui sont en contradiction avec la logique actuelle de réforme de l'armée sans intégrer les rebelles, alors il faudra que le gouvernement soit capable de résoudre cette question de manière militaire, mais aussi résoudre les causes sous-jacentes, comme le peuple l'a dit en fait. Il est possible de résoudre certaines causes de ces conflits sans forcément parler directement avec le M23, parce qu'on sait aussi que le M23 récupère parfois des frustrations qui sont légitimes des populations dans certaines zones, et quand il récupère ces frustrations-là, il veut se rendre légitime, et ça, si jamais le gouvernement trouve des solutions à ces réels problèmes de développement, à ces réels problèmes de cohabitation pacifique, alors là, il peut certaines des revendications du M23 et le prétexte qu'un groupe rebelle peut avoir sera épuisé et le gouvernement pourra peut-être résoudre cette question. Et le plus complexe, mais en fait, ça pourrait être une des pistes à envisager par le gouvernement congolais.
Alors, Reagan, donc, selon vous, dans les accords signés entre le gouvernement et le M23, le gouvernement devrait, si je vous comprends bien, voir ce qui est possible de faire, qui ne va pas heurter la sensibilité de la population congolaise pour essayer de calmer un peu les ardeurs de ces rebelles du M23.
Moi, je suis un analyste et j'essaie juste de voir ce qui se passe sur le terrain. Et sur base de ce qui se passe sur le terrain, on comprend bien en fait qu'il y a une zone qu'on n'a pas prise en compte depuis très longtemps, c'est l'opinion publique congolaise. Et donc, si il y a, le gouvernement a difficile à exécuter certains accords, c'est exactement parce que l'opinion publique congolaise est hostile à ces revendications-là. C'est pourquoi le gouvernement congolais doit vraiment jouer à cet équilibrisme-là pour voir en fait dans quelle mesure certaines choses peuvent être résolues au travers peut-être des communautés sans forcément parler avec la M23 comme on l'a dit ici. On va plus refaire la roue, on va plus refaire le...
Et qui serait l'interlocuteur du gouvernement dans ce cas? Et qui serait l'interlocuteur du gouvernement dans ce cas, Reagan Miviri?
Ben, notamment le Rwanda, c'est le premier interlocuteur, parce qu'en fait, dans une certaine mesure, on a vu une convergence des vues entre les revendications du M23 et certaines revendications du Rwanda. Et donc, je pense que ça, c'est un pas déjà important d'avoir des discussions directes avec le Rwanda, mais aussi avec l'Ouganda, parce que il faut savoir les intérêts de chaque État et savoir comment on parle avec ces États-là pour épouser toutes ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'en parlant avec tel ou tel acteur, ça veut dire on légitime ces revendications, mais c'est important pour le gouvernement congolais de comprendre pourquoi, en fait, quels acteurs ont un intérêt dans le conflit actuel et qu'est-ce qu'ils cherchent en réalité. Parce que, comme on le disait encore ici, les causes sous-jacentes de ces conflits. On ne peut pas résoudre tout simplement ce qu'on voit à Bunagana ou ce qu'on voit à Rutshuru. On doit résoudre les vraies causes, mais aussi les causes qui sont internes au système congolais, notamment la réforme d'alarme. C'est important. Si le Congo n'est pas capable d'avoir un système de défense adéquat, s'il n'est pas capable d'avoir de l'ordre sur tout son territoire et de maintenir d'avoir l'État partout, alors là, ça sera toujours difficile parce que le Congo sera toujours dans la position où il doit négocier avec des groupes rebelles, avec des revendications variées.
Vous restez en ligne, Reagan Miviri. On va se rendre à Beni, dans la province du Nord Kivu, pour écouter le point de vue de cet auditeur qui nous appelle.
Doubé Mwenemboka, j'appelle à partir de Beni au Nord Kivu. À mon avis, la situation actuelle méritait la négociation des deux parties pour une paix partielle et le renforcement de l'autorité étatique pour une paix définitive. Car à l'état actuel, l'État congolais a échoué de progresser et le M23 de même. Mais aussi, la médiation sous-régionale ne penchera que du côté M23 qui a plusieurs soutiens tant régionaux qu'internationaux. Que cela soit une leçon pour le gouvernement congolais qui se précipite de signer les accords difficiles à appliquer.
Votre point de vue, Reagan, qu'est-ce que vous pensez de ce que cet auditeur vient de dire?
Oui, j'apprécie ses propos à sa juste valeur. Moi, je suis aussi de l'avis qu'en fait le gouvernement doit être en position de ne pas avoir à négocier, mais dans la situation actuelle, ça semble être envisageable. Mais en fait, le problème, c'est qu'on peut négocier, mais on aura des difficultés encore à exécuter ces accords-là. Donc, le vrai problème, ce n'est pas le fait de négocier, mais c'est plutôt est-ce que le gouvernement congolais est en position de réaliser ce qu'il va signer avec le M23, mais aussi dans quelle position on va négocier. Par exemple, si on doit négocier parce qu'on veut reprendre Bounagana, alors là, le Congo risque en fait de payer un lourd tribut parce qu'en fait, il veut récupérer une partie de son territoire. Donc, est-ce que c'est le bon moment? Je ne sais pas. C'est juste une analyse, mais je pense qu'il est possible d'avoir encore de continuer avec ces revendications-là d'État à État avant d'envisager peut-être d'avoir de pourparlers direct avec le M23. Mais là encore, j'ai beaucoup de réserves là-dessus.
Julien Paloukou, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient encore une fois de Beni au Nord Kivu.
Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Et à mon avis, l'impossibilité de déloger les M23 prouve que nous sommes encore loin d'aller en guerre contre les Rwandais, comme le propose certains. Car si une portion des rebelles au moins incapable de les délocaliser à l'espace M23, à combien plus forte raison tout un pays, bien qu'il soit minuscule, peut engager la guerre contre ce pays? À mon avis, il y a urgence des réformes profondes au sein de notre armée et l'équipement effectivement. Et nous n'allons pas manquer aussi à déplorer également le silence de la communauté internationale, et voire même de certains de nos autorités, parce qu'on ne sait pas vraiment une pression pour libérer Bounagana entre les mains de ces insensés rwandais. Parce que il faut nous poser la question, déjà un mois, qu'est-ce qui bloque pour libérer Bounagana?
Julien Paloukou.
Oui, qu'est-ce qui bloque pour libérer Bounagana? Je pense qu'il faut qu'il garde son calme. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit, et ce qu'il m'a dit l'autre intervenant, c'est de pouvoir préparer la guerre parce qu'on veut faire la paix. Je l'ai dit au début et je me répète, je sais que vous m'avez posé une question embarrassante lorsque je disais, madame, que en fait, la signature de plusieurs accords montre en fait la faiblesse militaire des États. Je voudrais le réaffirmer en disant que le président de la République a senti effectivement que cette sorte de faiblesse appelle à cette mobilisation générale pour que nous puissions refonder notre armée en la soutenant par son rajeunissement pour lui permettre de lui doter d'une capacité militaire pour affronter de grandes armées. Ici, moi je voudrais dire une chose, c'est que nous devons avoir la constance dans l'identification de la menace. Quand vous voyez le président rwandais parler de la menace, lui, c'est tout le temps le mot FDLR qui revient. J'ai suivi son interview avec France 24, même quand on veut lui ramener dans la présence de son armée en RDC, lui ramène les journalistes en disant « Mais pourquoi vous parlez de mon armée et vous ne voulez pas parler de FDLR ?» Mais nous, quand on veut parler de la menace qui pèse sur nous, nous sommes en train de parler autour du M23, de l'Ouganda, de beaucoup de choses à la fois, alors que le président de la République, à travers tous ses discours, vient de nous aider à identifier effectivement la menace qui pèse sur la RDC aujourd'hui, en disant clairement dans tous ses discours, y compris celui du 30 juin, que nous sommes agressés par les Rwandais. Ce n'est pas Julien Paloukou qui le dit, c'est le président de la République démocratique du Congo qui le dit. Et donc, moi je crois que le peuple congolais et tout le monde devra avoir la constance dans l'identification de la menace pour que, à l'instar d'autres qui sont constants dans leur discours, nous ayons ce seul discours à promener à travers le monde, que la menace telle que le président l'a identifiée, c'est telle. Et en ce moment-là, nous allons nous préparer contre cette menace à construire notre système de défense, parce que nous allons pleurnicher pendant 10 ans. Si nous ne pensons pas à construire ce système, eh bien, nous serons toujours agenouillés par des gens qui viendront profiter de la fragilisation de notre système.
La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Le Rwanda, de son côté, accuse les FRDC de collaborer avec les FDLR. Finalement, c'est la même chanson qui revient à chaque fois. On tourne en rond. On a l'impression qu'on n'est pas prêt d'en sortir, Monsieur Paloukou.
Oui, j'avais balayé dans une autre émission ici la question des FDLR. Je reconnais que les FDLR constituent pour moi une menace dans la région des Grands Lacs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a trois menaces que je considère comme des forces négatives qui doivent être éradiquées. Il y a un, les FDLR, deux, les EDF, trois, les M23. Ce sont là les trois forces négatives qui doivent être, disons, élaguées de la région des Grands Lacs. Toutes les autres forces, qu'il s'agisse de Maïmaï, X, Y, Z, sont des forces supplétives qui vont disparaître d'elles-mêmes si les trois forces principales sont éliminées. Et donc, je considère que si les États de la région des Grands Lacs éliminent ces trois forces-là, eh bien, la paix va régner.
Professeur Bob Kamamba, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Rémi Lokonga depuis Kisangani, de la province de la Tchopo. La revendication faite par les M23 afin d'avoir des pourparlers directs avec le gouvernement congolais, mais qui n'est des stratégies mises en place par les Rwandais pour tromper l'opinion tant nationale qu'internationale d'un quelconque soutien de sa part à ces mouvements rebelles et qu'il s'agit d'une affaire interne entre les Congolais. L'occupation de la cité de Bounagana jusqu'à ce jour prouve insuffisante que notre armée éprouve encore d'énormes difficultés en termes de moyens et de logistique pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. À ce stade, il faudrait que le gouvernement puisse ne pas abandonner l'option militaire s'il veut aller négocier en position de faire fort. Et pour ce faire, il doit doter à notre armée des moyens nécessaires pour attaquer et déloger l'ennemi dans les positions qu'il occupe actuellement et renforcer les effectifs sur terrain, car l'armée est un instrument important de la politique étrangère outre la diplomatie.
Brève réaction, professeur, sur ce commentaire de Rémi Lokonga.
Oui, ce commentaire de Rémi Lokonga, donc il y a plusieurs dimensions. Il y a d'abord la question des supplétifs. Donc je vous fais la guerre par procuration. Il est un fait que le Rwanda applique cette stratégie depuis plusieurs années, et même l'Ouganda et même le Burundi, sous le territoire congolais. Donc le M23 est, nous le savons, confirmé par tout le monde, et soutenu par le Rwanda militairement et équipement. Lorsque vous revenez un petit peu en arrière, vous allez prendre compte que il y a eu des discussions, des négociations après 2013 entre justement le M23 et certains membres représentants du gouvernement congolais, où il y avait deux camps. Il y a un camp qui était considéré au Rwanda, donc les M23 ont été battus par l'armée congolaise en 2013. Une partie s'est réfugiée au Rwanda, l'autre partie s'est réfugiée donc au Uganda. Et ce sont ces deux qui se sont réorganisés pour redevenir M23 nouveau 8 ans plus tard. Or, c'est impossible sans le soutien et de l'Ouganda et le soutien donc du Rwanda. Il y a cet aspect-là. Militairement, malheureusement, le Congo n'est pas en mesure pour l'instant de pouvoir arriver à résoudre cette question au niveau militaire. Mais, alors, si le Congo n'est pas en mesure de résoudre cette question au niveau militaire, ça veut dire que le Congo doit négocier, or négocier comme je l'ai fait précédemment, c'est-à-dire ça va être perçu comme une défaite de la RDC face au Rwanda. Et là, je ne pense pas que le gouvernement congolais soit à même de pouvoir aller dans cette direction.
Même avec l'appui de la force sous-régionale, l'appui de la force de l'EAC, la RDC ne sera pas en mesure de neutraliser ce mouvement M23.
Même avec la force, déjà que l'Ouganda et le Rwanda sont derrière le M23, et que l'Ouganda est déjà présent sur le territoire congolais, le Burundi est déjà sur le territoire congolais, et donc je vois mal cette force, ce qu'elle va apporter de plus dans ce... Par contre, ce qu'elle va apporter, ce sera figer les positions, c'est-à-dire, Bounagana sera encore toujours entre les mains du M23, figer, quand on dit on veut mettre fin aux hostilités, on adopte un cessez-le-feu. Et cessez-le-feu qui doit être figé avec des forces d'observation, et donc les positions vont rester les mêmes, et on va revenir encore une fois aux négociations.
Merci, professeur Bob Kamamba. On va considérer cela comme votre conclusion. Nous sommes à la fin de notre magazine. Rigen Mouviri, votre mot de la fin, quelle est la solution aujourd'hui pour que la paix revienne dans cette partie du territoire congolais?
Oui, moi je toujours pensais que la solution pour tout le problème de l'Est du Congo, c'est le retour de l'État. Donc l'État doit reprendre sa place dans tous les territoires congolais, mais aussi que l'État ait son rôle là de protection des civils. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit pendant cette émission, Mais c'est important, cette crise a un visage. Il y a des victimes, il y a des gens qui sont déplacés, il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a des gens qui n'ont pas pu faire leurs examens des élèves. Tout ça parce qu'en fait, il y a cette crise. Donc, c'est important que l'État puisse reprendre son rôle et sa place sur tous les territoires de la RDC.
Julien Paloukou, l'État doit reprendre son rôle et sa place sur toute l'étendue de la RDC. Votre commentaire.
Oui, exactement. Je dois conclure que la guerre de l'Est et économique. Tout ce qu'on donne comme argument, FDLR, haine tribale, tout ça, ce sont des arguments fallacieux. Nous avons de grandes richesses. La RDC doit construire ce système de défense. C'est la seule manière de nous protéger contre toutes les velléités, d'où qu'elles viennent. Si on ne le fait pas, déjà viendront toujours nous déranger. C'est la seule interpellation que j'ai fait au peuple congolais et particulièrement à sa jeunesse.
Merci Julien Paloukou. Le dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté et Dona Madimba qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Martin Seboujangwe, présentation et coordination Kéline Kouté. La mise en onde est assurée par Alain Gold. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.